Vous êtes sûr que Proust était homosexuel, Thérèse ?
Dites-moi, mon petit vieux, pour faire de la littérature, attendez la retraite.
C'est important, la lecture. Je te vois jamais lire, toi, Polo.
Apprenez-moi à monter comme un homme.
Et à chiquer du tabac comme un homme.
À cracher comme un homme.
Quoi ? On vous l'a pas appris à la fin de vos études ?
Salut, bonsoir. Vous êtes sur J'irai cracher sur vos ondes. Vous êtes sur Syllab. On est là jusqu'à 20h. Et d'habitude, on parle de littérature, genre les livres. Mais aujourd'hui, on va parler d'écrits, de textes et de trucs qui sont pas les livres. Mais on a envie d'en parler quand même. Et pour en parler ce soir avec moi, il y a Marion.
Et bonsoir.
Fanny.
Bonsoir.
Et Agathe.
Bonsoir.
Et pour ceux qui rattrapent, moi, c'est Cécile. Depuis le temps que j'anime cette émission, vous devriez me connaître, s'il vous plaît. Bref. Avec toute l'humilité du monde, on va enchaîner avec notre programme qui va consister au menu avec de l'humour, de narrative journalism, avec un accent s'il vous plaît. Et pour le dessert, on va parler de cinéma d'animation et de jeux vidéo. Voilà, Marion.
Alors moi, quand on m'a dit petite émission sur des expériences narratives qui ne sont pas de la littérature ou pas des livres comme on a l'habitude, je me suis dit mais en fait c'est simple parce que si j'arrête de me dire que c'est que la littérature, ben, ça m'ouvre tout grand les portes de tout, en fait. Enfin, et c'est l'évidence, en fait, des expériences narratives, on en fait tous les jours. Dès que quelqu'un raconte une histoire, en fait. Dès que ton pote il vient te voir pour te raconter sa vie ou une anecdote...
Enfin, les blagues à toto, c'est peut-être pas la meilleure expérience narrative.
C'est pas la meilleure expérience narrative, exactement. Et c'est pour ça que, du coup, la plupart du temps, c'est pas fifou. On pense tous à ce pote en particulier qui a jamais complètement intégré le principe de la chute à la fin de l'histoire. Je sais pas si vous voyez...
Oui. Celui qui dit, je sais plus comment c'est à la fin, mais après, le caniche l'encule.
Ou celui qui raconte son histoire et t'attends la chute, mais il y en a pas.
Là.
Donc ça, c'est toujours un peu décevant. Ou alors, il y a ceux qui sont tellement pris dans leur propre histoire, qu'ils ont la fin en tête, que du coup, ils ont l'impression de construire un suspense insoutenable. Mais en fait, pour toi, en tant qu'auditeur, c'est juste chiant.
Ça dure des heures.
Ça dure des heures. Et donc voilà, finalement tu finis par regarder avec un regard un petit peu désabusé et l'expérience narrative est un échec. Mais c'est pas que le narrateur, le problème c'est aussi le narrateur. Parce que finalement, si Jean-Mi il bégaye ou qu'il oublie les transitions dans son histoire et entre ses phrases, ça aide pas, c'est sûr. Mais si en face, Jean-Ré n'écoute que d'une oreille parce qu'il mate les poivrons grillés sur le barbecue en se disant qu'il a faim, ça aide pas non plus. On est deux dans cette histoire, hein. Il faut être deux pour raconter et entendre une histoire. Et dans l'expérience narrative, il faut être attentif à maintenir ce lien, en fait, le lien que je suis en train d'essayer de créer entre vous et moi, par exemple, vous me suivez,
ouais.
Tout va bien. Le lien entre, donc, locuteur et récepteur. Et c'est en partie la raison pour laquelle, actuellement, je vous parle avec une légère condescendance infantilisante. Donc oui, bon, des expériences narratives, on en fait tous les jours, ok. Des locuteurs et des récepteurs, c'est pas ça qui manque. Mais des bonnes expériences, combien de personnes est-ce qu'on connaît qui sont vraiment douées pour nous raconter leur anecdote de la journée ? Ou même d'ailleurs n'importe quel bout d'histoire, et des gens qui arrivent à rendre ça palpitant, drôle, instructif, tout ça à la fois. Et bah, moi j'en connais plusieurs, enfin pas des potes, hein. je les connais, mais en fait on se parle pas vraiment, généralement ils sont plutôt sur une scène, dans une vidéo que je regarde affalée dans mon lit. J'ai nommé donc les humoristes, parce que finalement, le spectacle d'un bon humoriste, c'est une expérience narrative réussie. Un bon spectacle pour moi, c'est un spectacle qui commence et directement on est pris dedans, où l'humoriste arrive à faire en sorte qu'on s'identifie à ce qu'il nous raconte. Et il y a toujours des petites astuces comme ça, où à la fois il faut bâcher le public tout en se bâchant soi-même. Et il y a des petits codes comme ça à avoir. Et pour vous donner un petit peu un aperçu de ce que ça peut rendre quand c'est bien fait, moi j'ai pensé à Blanche Gardin, que j'aime d'amour, je sais pas si...
Ouais, j'apprécie énormément aussi. J'ai pas vu son dernier spectacle. Mais elle a un don assez fou pour captiver une audience et...
Elle raconte des histoires, quoi.
Ouais, puis elle raconte... alors du coup, tu sais jamais où est le vrai du faux. Comme avec tous les humoristes, tu sais pas qu'est-ce qui est la part du vrai ou du faux quand elle te raconte qu'elle foutait des crayons dans le trou de balle de son chat. Enfin, ce genre de trucs, d'anecdotes assez cinglantes. Et tu te marres et tu te bidonnes. Et,
ouais.
Ah, elle est très très douée.
Et je trouve que du coup, c'est une bonne idée. On va écouter l'accroche. Dans de ses sketchs.
Bonsoir, non. Merci, mais non, non. Non, parce qu'en fait, je vais arrêter le métier. Si, non, vous savez pas de quoi vous parlez. Vous avez des métiers normaux, vous êtes banquier ou je sais pas. Non, moi, j'arrête le métier parce que c'est trop difficile maintenant. Parce que maintenant, les gens qui montent sur scène, ils ont tous un truc à défendre. Une identité, une cause, quelque chose. Et moi, j'ai rien. Moi, j'ai rien. J'ai pas de spécificité. Moi, je suis pas homo, je suis pas trans, je suis pas végane, je suis pas polyamoureuse, je suis pas obèse, je suis pas noire, je suis même pas juive, je suis rien. Je suis rien. Moi, je suis une femme blanche, hétérosexuelle, de 41 ans, consommatrice d'anxiolytiques. C'est pas une identité, c'est un cercueil, d'accord ? Donc, non, c'est vraiment, c'est très compliqué. Et encore, je dis, je suis une femme, même pas tout le temps. On n'est pas une femme tout le temps, d'ailleurs, quand on est une femme, c'est vrai. Moi, le matin, quand je prends mon café, je ne suis pas une femme, par exemple. Je ne suis pas une femme jusqu'à 11h45, à peu près, je ne suis pas une femme. On ne se connaît pas, mais moi, le matin, voilà, je suis beaucoup plus proche d'un Annie Girardot, quelque chose comme ça, mais je ne suis pas une femme le matin. On n'est pas une femme tout le temps quand on est une femme, même pas. Alors, par contre, on sait quand on devient une femme. Ça, moi, je sais très bien quand je suis devenue une femme. Je suis devenue une femme, moi, le jour où j'ai couché avec un homme marié. C'est là que je suis devenue une femme. C'est là, précisément. Non, parce qu'on a tendance à dire qu'on devient une femme quand on a ses règles. Moi, pas du tout. Moi, quand j'ai eu mes règles, ça ne m'a pas du tout... Enfin, si, j'ai pris conscience que j'étais complètement dépressive quand j'ai eu mes règles. Parce qu'on m'avait dit, tu vas voir, on est triste hein, un peu avant les règles et pendant les règles. Moi, ça ne change rien du tout. Donc, je pense qu'il y a un problème. Voire même, je suis plus gaie pendant les règles, moi. Donc, c'est vraiment un problème de chimie interne. Mais par contre, le jour où tu te fais doigter par une main avec une alliance dessus, là, il se passe quelque chose, là. Là, le roman peut commencer vraiment. Hein. Là, c'est bonjour Anna Karenine, bonjour Emma Bovary. J'ai enfin la certitude que ma vie va mal finir. Je suis une femme.
Voilà, donc ça démarre assez violemment. Moi, j'ai pas mal de potes mecs qui n'aiment pas trop Blanche Gardin parce que ils trouvent ça un peu trop cru. Mais après,
il n'y a pas de vite impliqué, donc forcément, c'est voilà. Trop de guerre. Hein.
Mais ouais. Après, elle a quand même ce don de faire démarrer son histoire directement depuis les applaudissements. Et elle zappe un petit peu cette étape parfois superficielle.
Comment ça va, montre-toi ce soir.
Ouais, comment ça va. Ou alors, vous avez remarqué comme en ce moment, etc., des choses qui sont finalement un petit peu artificielles. Et je trouve qu'elle, au niveau des transitions, elle est vraiment douée. Et alors, je vais vous faire écouter un deuxième extrait, parce que en fait, là, ce qu'elle vient de faire, c'est d'amorcer un propos qui est au final assez instructif, parce que le « on ne naît pas femme, on le devient », c'est quelque chose qu'on a intégré, mais le retrouver comme ça dans un spectacle, moi, c'est quelque chose que j'avais jamais vu. Et en fait, elle réussit à faire des transitions comme ça sur ce que c'est être une femme aujourd'hui, que finalement, c'est compliqué aussi, les relations avec le mouvement MeToo, voilà... Et elle parle, elle fait des transitions comme ça jusqu'à arriver à la notion de consentement.
Le consentement, c'est plus compliqué que ce qu'on a voulu. Je veux dire, on a pensé qu'on allait tout régler avec une formule. Quand c'est non, mais c'est plus compliqué que ça. Parce qu'une fois que tu as dit ça, tu n'as rien dit. Parce qu'en réalité, bien souvent, quand c'est oui, c'est non aussi. Hein. Enfin, si moi j'avais refusé de coucher à chaque fois que je n'avais pas eu envie. Je ne serais jamais restée avec un mec plus de 3 mois, quoi. Enfin, c'est la réalité, on le sait, les femmes, une fois qu'on est dans une relation, très souvent, on baise sans en avoir envie. Alors, ça ne posait pas de problème avant, parce qu'avant, il y avait un échange avec le mec. C'est-à-dire qu'avant, on baisait autant de fois que le mec voulait baiser, mais en échange, on avait un confort matériel, il y avait une sécurité, il y avait quelque chose. En plein hiver, il sortait, il allait couper du bois sous la neige, il allait tuer des chevreuils pour nous nourrir et nous faire des robes. Et quand il rentrait, on lui suçait un peu la bite. Et même si ça sentait un peu le castor, il y avait un win-win. Il y avait quelque chose, en fait, qui se passait. Mais aujourd'hui, maintenant qu'on est égaux, il n'y a plus d'échange. Il n'y a plus d'échange. Tu rentres d'une journée de boulot, t'es crevé, il faut lui sucer la bite s'il a envie d'avoir la bite qui fait sucer. Et après, il faut écouter ses problèmes. Non, il y a un malaise, là. Il y a un gros malaise. Parce que c'est un acte magnifiquement pur et bon de se donner à quelqu'un comme ça, entièrement, alors qu'on n'en a pas envie. Mais même une sainte ou Mère Teresa... Aussi, il faudrait être une sainte ou Mère Teresa pour pas demander de contrepartie. Je veux dire. Et les saintes, bah, elles couchent pas, hein, ça, comme par hasard. Et Mère Teresa, elle est décédée. Donc... Moi, ce que je propose, c'est peut-être pour rétablir la paix au sein des couples, entre les hommes et les femmes, peut-être que ce serait bon que dans le couple, les hommes versent un salaire aux femmes pour tout le sexe qu'elles font sans en avoir envie. Enfin, moi, franchement, moi, je le ferais même avec des inconnus dans le besoin. Si on me payait pour le faire, c'est vrai. Enfin, je veux piquer le boulot de personne, mais vous voyez ce que je veux dire.
On rigole comme ça, mais ce dont elle parle, finalement, c'est des théories féministes qui ont existé. C'est des choses qui ont été théorisées, comme quoi, finalement, est-ce qu'il ne faudrait pas payer les femmes pour le travail qu'elles font, le travail domestique, etc. Mais aussi peut-être du coup le travail sexuel, parce que finalement ce qu'elle dit c'est assez vrai, enfin, y a des grosses inégalités de ce point de vue là et je trouve que Blanche elle a une facilité pour faire ça, justement pour amener des sujets de société ou des sujets théoriques sous prétexte de blague, mais tout en nous laissant la place de réagir. En fait, elle va ménager des pauses, elle va nous laisser le temps de rigoler. Et c'est ce que nos potes font pas assez souvent, en fait. Ils nous incluent pas assez dans la conversation, dans l'expérience narrative. Et ce que Blanche, elle fait, enfin, je trouve ça vraiment intéressant. D'autant qu'elle s'arrête pas à dire que c'est compliqué d'être une femme. Elle enchaîne ensuite en disant que bah, c'est aussi compliqué d'être un homme.
Quand on pense... Le premier défi qui se pose à l'homme, dans sa vie d'homme, c'est quand même de devoir bander, quoi. Son statut d'homme viril dépend d'un processus physique qu'il ne peut pas contrôler par la volonté. C'est quand même une servitude monstrueuse quand on y pense. Parce que nous, au pire, le jour où on n'est pas dedans, un peu de bave et on reste féminine. On est d'accord? L'homme, lui, il doit bander. Et l'origine de la virilité, elle est là, d'ailleurs. C'est, tu dois gouverner ta propre teub. Mais quel défi monstrueux! Tu m'étonnes qu'une fois qu'ils y sont arrivés, ils pensent qu'il faut qu'ils gouvernent le reste du monde. Les mecs, ça doit rendre mégalo une fois que t'as réussi à faire ça. Mais c'est l'enfer de devoir bander, la parano que ça doit créer. Mais moi, je n'ose même pas imaginer. Moi, je me suiciderais, je ne supporterais pas, je pense. La parano. Alors, parano injustifiée en plus, en réalité. Et je tiens à rassurer les hommes qui ne le seraient pas ce soir. Parce qu'en réalité, non, aucune femme ne va humilier un mec qui ne bande pas au lit. Ça n'existe pas. Le mec qui dit bah, excuse-moi chérie, je bande mou, désolé. Eh ben débrouille-toi, prends un chausse-pied, mais fous-la moi dedans. Non, ça ne vous arrivera pas. Vous pouvez être tranquille là-dessus, ça ne vous arrivera pas. Mais quand même, on comprend la difficulté. Moi vraiment de ce point de vue-là, je pense que c'est plus simple d'être une femme. Surtout que c'est même pas fini une fois qu'on bande, en fait. C'est que le début. Parce que la virilité exige la bandaison. Suivi de la pénétration, c'est tout le voyage hein, qui rend viril, c'est tout le truc. C'est pour ça que dans un contexte de séduction, les hommes sont dans cette urgence de conclure au lit. C'est là que ça doit se terminer, parce que c'est là que le miracle viril s'accomplit vraiment. Alors que nous, les femmes, dans la séduction, on n'a pas besoin d'aller jusqu'à la baise techniquement pour être rassurées narcissiquement en tant que femmes. Nous, dans la séduction, on a juste besoin d'aller jusqu'à ce point où on voit dans les yeux du mec qu'on pourrait briser sa vie. C'est ça qu'on veut voir. Qu'on pourrait être transformé en lavette. C'est ça qu'on veut voir. On veut voir cet éclat dans l'œil qui s'éteint. On veut voir ça. On veut voir qu'on pourrait lui chier dans le cœur tous les matins sans qu'il se rebelle. C'est ça qu'on veut voir. Mais on n'a pas besoin de baiser. On n'est pas des sauvages. Je veux dire. C'est ça.
Bon, alors, je suis désolée si certains ont l'impression de se croire sur Rire et Chanson. Hein. C'est vrai que ça fait un peu ça. Je vous balance des extraits comme ça. Mais je trouve qu'il n'y a pas mieux pour vraiment se rendre compte de l'effet que ça produit, en fait. Quand on commence à écouter, qu'au début, on écoute un peu d'une oreille distraite et qu'ensuite, on commence à voir le propos qui se construit. Et c'est pareil pour d'autres humoristes. Je ne sais pas si vous étiez fan de Desproges quand vous étiez ado ou fan de Coluche, etc. Mais un bon spectacle d'un bon humoriste, c'est aussi jouissif qu'un bon bouquin, quoi. Avec chacun son style et chacun sa petite patte, quoi.
Je pense qu'on peut même ouvrir au-delà. Hein. Tout spectacle est une
expérience narrative. Mais c'est peut-être plus évident pour des spectacles, comment dire...
Des stand-up
ou des trucs plus légitimés par les institutions, etc. Le stand-up, c'est, finalement, ça a émergé dans des...
Ouais, dans des bas-fonds.
voilà, ouais. C'était pas forcément très légitime. Et peut-être depuis une vingtaine d'années, ça se construit, ça se construit pas mal. Il y a une série là-dessus qui a été produite par Jim Carrey. Ça s'appelle I'm Dying Up Here et qui relate un peu l'émergence du milieu du stand-up dans les années 70, qui est assez intéressante. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y a du plagiat. Il y a beaucoup de plagiat dans le milieu des humoristes.
Et Gad Elmaleh,
Gad Elmaleh par exemple.
Et c'est que finalement, l'enjeu est assez fort, quoi. C'est vraiment pas facile d'arriver à captiver un public et à l'emmener là où tu veux l'emmener.
Ouais, puis surtout, la scène stand-up américaine, ça naît dans des bars.
Ouais.
Donc, clairement, là, pour que les. Les stand-up français arrivent sur des scènes américaines, t'es très déstabilisé de te retrouver devant des gens qui mangent, qui boivent, qui vivent leur vie.
Ouais.
Et tu dois les capter au-delà de ça, dans cet environnement-là.
C'est un gros challenge comme narration, je trouve.
Puis en plus d'être des conteurs, parce qu'ils racontent des histoires, le but c'est déclencher le rire, c'est la chose la plus compliquée. Et ce qu'elle fait Blanche Gardin et qui est super intéressant, le rire, ça sort d'une tension. Mm-hmm. C'est parce que t'es tendu et après, hop, c'est un relâchement, le rire.
Ouais.
Et Blanche Gardin, elle le fait super bien parce qu'elle dit des propos qui dérangent,
mal à l'aise.
Mais qui, malgré tout, ont un fond de vrai. Et du coup, tu ricanes un peu plus que tu ris vraiment. T'es un peu. Elle le fait très très bien.
Après, le rire comme finalité, je suis pas très sûre, mais après, je dis ça parce que j'ai regardé ce week-end Douglas, qui est le dernier spectacle d'Anna Gatsby, qui avait fait Nanette, qui a bien bien cartonné. Et Nanette. C'est pas un spectacle comique.
Non, c'est vrai.
Et pour autant, on peut rire pendant ce spectacle. Oui. Mais si on ne fait que rire, c'est qu'on est passé à côté de pas mal de trucs.
Ouais.
Elle prend, j'ai pas regardé la durée, mais on va dire 15-20 minutes à t'expliquer ce qui va se passer durant ce spectacle. Donc tu vas voir tout plein d'enjeux de haha, elle l'avait prévu et ça s'est passé comme elle avait dit, MDR. C'est assez drôle. Et d'ailleurs, elle fait une blague sur je vous avais dit que ça se passerait comme ça. Et quand vous allez voir le truc arriver, vous allez faire « Haha, c'est drôle !» Après, vous allez faire « Hahaha, c'est drôle !» Et elle l'avait dit. Mm-hmm. Et après, vous allez rire une troisième fois parce que j'avais dit tout ça. Donc, c'est vraiment un millefeuille de blagues qui défonce le quatrième mur assez stylé. Et c'est assez génial. Mais voilà, c'est tout ce que je vous dirais sur Douglas parce qu'il faut le découvrir et se laisser embarquer. C'est assez merveilleux.
Ouais. Mais au final, il y a énormément d'outils rhétoriques que je pense que les artistes de stand-up utilisent. Mm-hmm. Sans forcément en connaître la taxinomie ou le nom, etc. Mais de fait, ils les utilisent tout le temps. Le fait de créer une réflexivité sur, comme tu disais, avec Douglas, sur le spectacle, et du coup, tu crées de la connivence, en fait.
On est tous au courant de ce qui est en train de se passer, là, tout de suite. Ouais. C'est moi, sur scène, en train de vous parler à vous, public.
Et pour moi, c'est un des éléments les plus importants d'une expérience narrative. C'est la connivence que tu crées entre l'auteur et le lecteur, si c'est de la littérature, entre le donateur et le récepteur, si c'est un autre mode d'expression. Du coup, c'était assez niche comme sujet, mais j'ai l'impression
que j'ai encore plus niche.
J'ai l'impression que ton sujet il est assez niche aussi, Agathe.
Et bah, on poursuit dans la niche. Après, vous inquiétez pas, on va pas le truc grand public, tout ça là, mass media et compagnie. Mais pour l'instant, Agathe.
Oui, j'ai choisi un sujet de niche, même de petite niche. Mais j'espère que du coup, je vais vous faire découvrir quelque chose. Parce que pour cette émission spéciale sur les expériences narratives, j'ai longuement cherché ce qui pourrait faire l'affaire. Donc les jeux vidéo, on l'a dit, les jeux de rôle, le cinéma, le théâtre. J'ai tout passé en revue, tout était sympa, mais je me sentais pas assez calée sur le sujet pour vous parler de RPG ou du dernier Spielberg avec un ton enflammé. Non, en fait, mon truc à moi, c'est le journalisme. Alors, cette affirmation va peut-être vous étonner. Qu'y a-t-il de narratif dans la page Fait divers de West France, on se demande.
À
première vue, pas grand-chose. Et pourtant, le journalisme et la littérature ont toujours été étroitement liés. Au XIXe siècle, tous les écrivains avaient également leurs chroniques dans un ou plusieurs journaux, voire, comme Balzac, se sont escrimés à créer leur propre journal, sans succès. Il fera faillite deux fois. Et le fait divers en lui-même est éminemment romanesque. Ce n'est pas pour rien qu'il a fasciné les écrivains. De nombreux ouvrages ont été écrits à partir de faits divers ou en compilant des faits divers. On peut citer donc Madame Bovary de Flaubert, mais aussi La Ronde et autres faits divers de Le Clésio, et plus récemment L'Adversaire d'Emmanuel Carrière ou L'Enfant d'Octobre de Philippe Besson. Ces quatre ouvrages cités s'inspirent de faits divers, mais chacun de manière différente. Mais ce n'est pas de faits divers dont je suis venue vous parler ce soir. J'avais envie de vous parler d'une branche journalistique plutôt méconnue, le narrative journalism. Le quoi, vous entends-je dire ? Pas de panique, les explications arrivent. Donc je sais pas si dans le studio ça vous dit quelque chose, le narrative journalism, je parle chinois.
C'est le journalisme narratif, non?
Oui. Bien, t'as fait un bac anglais, toi.
Sherlock. Bah, moi, tout de suite, là, ça m'évoque, comment dire, des articles en chapitre.
Oui, c'est, ça, ouais. ça peut être l'idée, oui.
Ouais, moi, ça m'évoque plus Orwell.
Oui, en fait, on peut retrouver des traces de narrative journalism chez Orwell, chez Steinbeck. Donc, bon, pour vous expliquer plus en détail, le narrative journalism est défini comme un journalisme plutôt littéraire, donc c'est là où est le lien avec l'émission, ne vous inquiétez pas, puisqu'il consiste à raconter un événement, un fait divers, de façon narrativisée. C'est donc ce qu'on pourrait appeler de la littérature du réel, où chaque phrase, chaque détail a fait l'objet de plusieurs mois de recherche de la part du journaliste. Oui, car généralement, les articles traités en narrative journalism, ce sont plutôt des enquêtes de plusieurs mois, pas un petit article de 5 lignes sur l'ouverture de la boucherie du coin. Vous imaginez un peu le truc, sinon il faisait à peine jour quand Pierre-Paul Jacques ouvre la devanture métallique de son magasin en sifflotant. L'enseigne indique boucher charcuterie. Charcutier.
En vrai, ça peut faire un livre de Jacques Roubaud.
C'est poétique, hein, moi j'aime.
Bon, bah, vous avez l'idée. Bon, bah, ok, je vais me lancer dans le narrative journalism. Bon, non, franchement, pas terrible. Si vous voulez un exemple de narrative journalism, vous feriez mieux plutôt d'ouvrir un magazine tel que 21 ou 6 mois.
Ah, ouais.
Qui sont spécialisés dans ce genre de choses. Donc, je disais donc, il s'agit d'enquêtes ou de reportages la plupart du temps. C'est un genre immersif, où le journaliste ne va pas hésiter à donner ses impressions, ses intuitions, tout au long de l'enquête. C'est un récit plutôt personnel, ponctué de faits, puisqu'il s'agit, comme je le souligne, du journalisme. Le premier écrit du genre est le livre de l'Argentin Rodolfo Walsh, mais malheureusement pour lui, il se fera piquer l'idée en 1965 par Truman Capote, qui écrira le célèbre « De sang froid », ou, parce que je sais que vous avez aimé mon petit accent anglais, « In cold blood ». Avec un bon... voilà, donc avec un chat dans la gorge. Voilà pour l'exposé de 6e. Vous avez maintenant les grandes lignes. Et là, je vous vois venir. Bah, Agathe, tu t'es trompée de sujet. L'émission, c'est sur les expériences narratives en dehors des livres, pas dedans. Ce à quoi je vous répondrai que c'est ma chronique, je fais ce que je veux. Bon, plus sérieusement, le narrative journalism est plutôt idéal pour illustrer ce sujet. En effet, si sa forme la plus commune reste le livre, il ne faut pas oublier qu'il tire ses origines dans le journalisme, et donc qu'on le trouve également dans les pages de magazines. Depuis quelques années, la forme de narrative journalism explore également les possibilités de l'Internet et développe de nouvelles manières de faire, à l'aide de la photographie, d'articles de blog et parfois même de vidéos.
Bon, est-ce que tu as des exemples de podcasts aussi? Parce que ça me fait beaucoup penser à une enquête qui avait été sortie par Nouvelles Écoutes. C'est le canon sur la tempe.
Personne n'a écouté le canon sur la tempe.
Où c'est en gros un mec qui est originaire de je sais plus quelle ville du sud. Et là-bas, il y a un joueur célèbre de rugby. Je ne suis même pas sûre que c'est du rugby, c'est vous dire. Mais qui est mort de manière mystérieuse. Et il mène l'enquête. Et du coup, on a, c'est un documentaire sonore. Mais très narratif.
Et basé sur une histoire vraie. Donc.
Et sur son enquête à lui, en fait. Oui. En tant que gars du coin qui connaît des gens de la famille. Avec les appels téléphoniques. Etc,
oui, bah, en tout cas, ça, sur le, enfin, je connais pas, donc je voudrais pas trop m'avancer, mais en tout cas, sur le plan, la manière dont tu le décris, ça ressemble fortement à du narrative journalism.
On apportera un correctif sur les réseaux si besoin.
donc, sous forme de vidéo, donc, c'est le cas du site 6billion, on retrouve toujours une histoire narrativisée, comme dans un roman ou comme au cinéma, mais le but n'est pas le même. Et c'est sur ce point que je voulais attirer votre attention. En effet, si d'un point de vue théorique, peu de choses séparent le narrative journalism d'un livre, le but final n'est pas le même. Là où le but premier d'un livre est souvent purement et simplement de le divertir, celui du narrative journalism est d'informer, amener à la réflexion. À la différence d'un article normal, le narrative journalism va permettre d'être plus immersif, tant pour le journaliste que le lecteur. Cela veut donc dire qu'il est aussi moins neutre, le plus souvent plus véhément. La forme narrative apporte des émotions au lecteur, là où le style d'écriture des chiens écrasés vous fera le plus souvent ni chaud ni froid. De plus, la forme narrativisée va permettre de toucher des lecteurs différents, parce qu'ils auront peut-être l'impression de lire, ils auraient peut-être moins l'impression de lire le journal, qui est, on va le dire, très critiqué en ce moment quand même. Mm-hmm. Donc, dans le milieu anglo-saxon, la veine a bien pris. Les ouvrages de ce type sont bien identifiés comme narrative journalism. On compte de nombreux livres de journalistes qui retracent une enquête à l'image de In Cold Blood de Truman Capote.
Le New York Times pratique ce genre de récit, mais en France, en revanche, les choses sont bien plus compliquées. Si je vous parle de narrative journalism depuis tout à l'heure, ce n'est pas pour me la péter avec mon accent anglais, mais bien parce qu'il n'existe pas vraiment de terme pour le désigner en français. La catégorie récit du monde pourrait s'en rapprocher, mais ce n'est pas encore tout à fait ça. Certaines revues, cependant, sont bien spécialisées dans le domaine. Donc, je vous parlais tout à l'heure de 6 mois, donc c'est un magazine bimensuel. Ils enquêtent sur des sujets de société, souvent traités à chaud par les médias, en revenant sur les événements quelques mois plus tard, en les décortiquant sur ce qu'il s'est passé. Le principe d'une enquête, quoi. À titre d'exemple, le dernier numéro, printemps-été 2020, le numéro 19 de 6 mois, proposait un reportage sur la situation sociale au Brésil, l'incendie de Lubrizol ou encore sur le Brexit. Dans la même veine, appartenant au même groupe des 4 revues, il y a le magazine 21 qui propose lui aussi des récits narrativisés et des enquêtes de fond. Mais contrairement à son petit frère 6 mois, 21 propose également d'autres formes innovantes dans le milieu journalistique comme la bande dessinée et l'utilisation de nombreuses images. Si l'actualité racontée ainsi peut être plaisante, puisqu'elle reprend alors les mêmes structures qu'un roman, la lecture peut parfois être laborieuse. En effet, si l'écriture journalistique dans le narrative journalism est plus souple que pour des articles plus standards, elle se doit cependant de respecter une démarche journalistique. Donc les descriptions doivent coller aux faits, on ne va pas trouver d'envolée lyrique. De plus, les détails tantôt historiques, tantôt sociologiques abondent. Donc sur certains passages, la lecture peut être un peu plus ardue, je le reconnais. Je terminerai cette chronique en vous citant quelques exemples de narrative journalism. La forme la plus classique revient donc aux anglo-saxons. Il y a un an, par exemple, est sorti Say Nothing, A True Story of Murder and Memory in Northern Ireland, de Patrick Radden-Keffy. Dans ce livre, Patrick Radden-Keffy retrace l'enlèvement mystérieux d'une mère de 12 enfants sur fond de guerre civile dans les années 60-70, avec un véritable travail d'enquête et historique. Malheureusement, le livre n'a pas été traduit en français, donc pour ceux qui ont du mal avec la langue de Shakespeare...
Bah, apprenez-la.
Couvert un beau copain et une copine pour vous faire attention.
Bah, bonne chance parce qu'il fait 500 pages. Donc, donc je vous conseille plutôt, au lieu de vous amuser à le traduire, de jeter un œil aux revues 6 mois et 21 que j'ai évoquées précédemment, et éventuellement au roman de Mathieu Palin, sorti en septembre dernier. Sale Gosse n'est pas à proprement parler un ouvrage de narrative journalism, puisque le personnage principal, Wilfried, est totalement inventé, fabriqué à partir de plusieurs jeunes que le journaliste a croisés au cours de son enquête en centre fermé de protection judiciaire de la jeunesse, d'IPJJ. Cependant, la démarche reste très proche, et Mathieu Palin a été journaliste pour la revue 6 mois, donc ça s'en rapproche. Le roman retrace le quotidien des éducateurs et des adolescents dans des centres pour mineurs, et donc c'est Sale Gosse aux éditions Iconoclaste par Mathieu Palin. Donc voilà pour les petites références si vous avez envie d'y jeter un œil.
Bah, ça donne envie en tout cas. Et puis je pense que c'est une bonne manière aussi de réconcilier... tu disais tout à l'heure qu'il y a quand même une méfiance grandissante envers les médias. Et je pense que justement c'est aussi parce que de manière générale, la plupart des journalistes, ils vont prétendre à une objectivité
qui n'est pas tenable, qui n'est pas achevable.
Mmh. Et finalement, le narrative journalism, il y a une manière d'assumer la subjectivité du point de vue qui est finalement peut-être plus légitime quand tu, dans tous les cas, tu racontes une histoire, même si c'est une histoire et qui a une visée journalistique, etc. La prétention à l'objectivité, forcément, elle est suspecte. Et quand les gens s'en rendent compte, ça brise la confiance que tu peux avoir.
Oui, tout à fait. Et puis la différence aussi, c'est que bah, pour écrire un article comme ça, ça se fait pas en un claquement de doigts. Donc il faut plusieurs mois. Ouais. Il faut vraiment aller sur le terrain, il faut rencontrer les gens. Et c'est là où on voit la différence donc, de ce qu'on appelle l'actualité à chaud, qui va vraiment être, surtout là en ce moment avec les réseaux sociaux, ça va être à celui qui va publier dans la seconde l'article.
Le billet du membre.
Et donc ce type de journalisme qu'on va plus appeler actualité à froid, qui vraiment prend le temps de la réflexion et de l'enquête, et donc finalement peut-être est moins sujet à erreur.
Ouais.
Même si bon, les deux, enfin, je suis pas en train de critiquer, hein, l'actualité à chaud a aussi ses avantages. Mais...
Lesquels ? Non, je regarde.
Mais enfin, sur un autre sujet, tu distinguais le journalisme dessiné, on va dire, du narrative journalism. Mm-hmm. Alors pour le coup, en ce que tu me disais, moi je pensais beaucoup à d'enquêtes dessinées en fait, comme très récemment l'ouvrage La Marée Verte.
Ouais, les sur algues. Les algues vertes. Ouais. Mais j'y ai pensé aussi pendant que tu parlais. J'ai pensé à la revue dessinée et à la BD sur les algues vertes qui est un putain de travail.
La revue dessinée fait partie du groupe donc avec 21, oui. 6 mois et je crois qu'il y en a 4, il y en a un autre. Je ne sais plus.
Et sur Topo, je crois. Sur un truc un peu différent, le rêve que j'avais, c'était Drôle de femme. C'est une série d'une dizaine de portraits. Donc c'est fait par la journaliste Julie Birman et c'est dessiné par Catherine Meurice. Donc là, on est plus sur de l'interview portrait en bande dessinée. Mmh. Je ne sais pas si ça se... on peut s'y retourner dedans parce qu'on suit vraiment la journaliste. Genre, on la voit dans sa petite voiture ou son petit Oldimel avec ses roses ou son gâteau en train de partager un peu les appréhensions qu'elle peut avoir ou en train de nous décrire en même temps qu'elle rencontre des personnes. Donc je ne sais pas si ça se retrouve là-dedans. Mais...
Oui, on pourrait voir ça comme une forme de narrative journalism 2.0 en fait. Parce que d'abord,
il y a 2.0, c'est un ouvrage qui date un petit peu des années 2000. Mais...
Oui, mais c'est-à-dire que, comme je l'ai expliqué, le narrative journalism, c'est né quand même dans les années 60-65, sous la forme écrite. Et donc là, on commence vraiment à voir émerger de nouvelles formes.
Ouais, les formes, elles bougent forcément.
De BD, etc. Ouais. Mais ça reste le même principe.
Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ça a l'air d'être, parce que du coup, je connais pas du tout ce style, mais j'imagine que ça a l'air d'être plus issu d'une rencontre et de quelque chose de réfléchi et de mûri, comme tu le disais, vu que ça se joue sur la longueur, mais aussi, vu que c'est issu d'une rencontre, parce que généralement, c'est une enquête qui concerne des gens et c'est des interviews, t'as pas envie de faire mentir les gens de qui tu parles. Et ça, c'est la grosse différence avec les articles de journaux actuels, où c'est plus... factuel et ça déshumanise un petit peu le propos aussi souvent. Quoi.
Après, le but aussi c'est quand même de rester assez factuel puisque il faut, ça reste des faits et ça reste du journalisme, mais ouais, il y a vraiment une volonté d'immersion et qui passe.
Peut-être de retrouver de la connivence aussi, comme on disait tout à l'heure avec les humoristes.
Oui, c'est ça, de savoir accrocher les gens, parce que en soi, on imagine que le factuel, ça reste important, mais voir des chiffres ou des choses comme ça, au final, les chiffres, tu les oublies en deux secondes, alors qu'une vraie histoire qui est amenée, tu la retiens plus facilement.
Parce que tu as créé un lien, tu as impliqué de l'émotif dedans.
Oui, c'est sûr. Ça. Après, je pense que nous aussi, on a un profil plutôt littéraire, donc c'est vrai qu'on va être plus touché par ce genre de journalisme. Oui. Mais après, je pense que ça dépend aussi des personnes.
Oui, c'est vrai que ça dépend sûrement des sensibilités.
Voilà, et ce que je voulais dire aussi, c'est que le journalisme, il y en a pour tout le monde, pour tous les goûts. Oui. Il faut pas taper dessus comme ça, et il faut d'abord se renseigner.
Vive le journalisme. C'est comme la pâtisserie, c'est pas parce que vous aimez pas les tartes aux pommes que les Paris-Brest ne sont pas faits pour vous.
C'est pas mal ça, les métaphores alimentaires, ça marche toujours.
Ouais. Ça me donne envie d'un Paris-Brest.
Et si on changeait de plat?
Oui, tu veux y aller, Fanny, ou j'y vais?
Moi, du coup, juste pour ce qui est question des... je voulais parler des films d'animation, et du coup, de tout ce qui tourne autour de ça, et de la narration du film d'animation. Et ma première question là-dessus, parce que je préfère poser des questions là-dessus de manière un peu ouverte, est-ce que vous appréhendez un film d'animation avec de la nostalgie, avec des critères d'enfant? Parce que c'est un film d'animation et des dessins.
Ça va vraiment beaucoup dépendre de la relation que j'ai avec le film en fait. Ça va plus une question de quand je le découvre.
Ouais.
Quand je le découvre dans l'enfance, oui, je vais y appliquer ce filtre-là. Mais si je le découvre, même un film entre guillemets pour enfants, si je le découvre maintenant aujourd'hui, j'ai pas...
Tu le regardes pas avec tes yeux d'enfant.
Je peux m'y retrouver portée, mais je vais pas attendre du film qu'il fasse ça, quoi.
Ouais, ok.
Je vais m'attendre à ce qu'il me... Enfin, je vais être moins sévère avec les métaphores, parce que souvent j'ai l'impression que c'est des films qui fonctionnent beaucoup par métaphore et c'est pas forcément des représentations, rien que quand les personnages sont des animaux, on trouve ça parfaitement normal.
Oui, c'est vrai.
Et du coup il y a un peu, tu suspends ce truc là alors je sais pas si c'est adulte ou enfant, tu vois, mais tu...
Dans tous les cas, on est tous des grands enfants.
T'es peut-être plus réceptif à un discours métaphorique et du coup t'as peut-être moins de filtres, pas réaliste.
Et du coup, là-dessus, en début d'année, j'ai vu un film qui m'a vraiment beaucoup marqué. Il s'appelle Les Hirondelles de Kaboul. Je sais pas si vous avez eu l'occasion de le voir.
J'ai vu l'affiche, tout le monde en a parlé, mais je suis pas allée le voir. Ouais. Ça va être l'occasion en plus, une nouvelle fois, de faire « Ah, je l'ai loupé, yes !»
Ben, tu le regarderas, hein, parce que il est vraiment fou, il est grandiose. Mais ça m'a posé la question de savoir... C'était une des premières fois que je voyais en dessin animé de la violence.
Ah ouais.
Et de la violence à la fois, enfin il y a de la violence métaphorique, mais il y a aussi vraiment de la violence physique et ça m'a le contraste du dessin qui est doux. C'est un... Tu l'as vu du coup ?
Non.
Non. D'accord. Et ben c'est un dessin qui est vraiment doux. C'est un dessin très doux et le contraste de voir de la violence, des scènes de lapidation et voilà c'est ça a un peu fait balancer mon cœur parce que dans tous les cas la violence j'aime pas la voir à l'écran. Même si c'est important de la voir, ça me choque toujours un peu. Et là, le fait de la voir en dessin animé, je savais très bien, j'avais eu la bande-annonce, j'avais déjà été prévenue à l'avance que ça allait être ça. Mais ouais, malgré tout, ça m'a un peu fait bizarre. Est-ce que vous avez déjà vu un film ?
Qui n'a pas regardé Le Tombeau des Lucioles avec toute sa famille en pensant que c'était un bon dessin animé ?
C'était ma cassette interdite avec mon grand-frère.
Nous, mes parents se sont vraiment fait avoir, puis deux fois de suite, parce qu'on a enchaîné Le Tombeau des Lucioles et Le Roi Léo. Donc pour vous expliquer, Le Tombeau des Lucioles, c'est un récit de guerre avec des orphelins, de la famine, des morts, moins moins. Et Le Roi Léo, pareil mais avec des lions.
Donc mais c'était fou. Ça c'est un truc, parce que ça ce sont des films d'animation japonais si je me trompe pas. Et les films japonais, en fait ils sont beaucoup plus violents que les films français. Et en fait en France on a même adapté certains dessins animés. Pour justement un public plus jeune, en enlevant des scènes de bagarre, des images un peu obscènes, etc.
Parce que la consommation des films d'animation est plus importante au Japon
que en France. Je pense que c'est plus culturel. Ouais.
Et puis même quand tu regardes le manga, ce qui s'est exporté beaucoup en France, c'est les trucs qui visaient des ados, parce qu'ils ont estimé que c'était comme les comics, donc on pouvait vendre ça à des jeunes personnes, alors que les Japonais n'ont pas du tout cette lecture-là, le manga... touche toute la population quoi. Et je pense que c'est un peu la même pour leurs films d'animation.
Ça pose la question de la cible. Ça veut dire qu'au Japon, en fait, le film est fait et pour les enfants et pour les adultes.
T'as aussi des trucs qui vont être dessinés qu'aux enfants, mais t'as pas cette idée que c'est animé, donc c'est pour les enfants.
Totalement différent. En France, souvent, même déjà le fait de parler de films d'animation, c'est déjà un gros progrès par rapport au fait de dire dessin animé.
Mais en soi,
parce
c'est...
que ça véhicule pas la même idée auprès des gens.
C'est pas l'imaginaire.
Mais c'est toujours une histoire de c'est comme de la différence dire roman graphique pour une BD.
C'est exactement la même chose.
Un dessin animé.
Comment tu légitimes le truc
C'est ça. En disant film d'animation et en essayant de parler à des adultes, alors qu'en soi, si c'est un dessin animé malgré tout.
Complètement. Va donc expliquer ça à ma mère.
Je vais parler de ça à ta mère, tu vas voir.
Et du coup, Fanny t'a posé la question de si on recevait le film comme un enfant ou comme un adulte. La première chose que j'ai pensé, c'est Kiki la petite sorcière, que j'ai adoré parce que, enfin, vous vous rendez compte, c'est une sorcière quoi. Ouais. Elle a un petit chat, un petit balai, elle fait des crêpes, et elle vit toute seule. Wouh. Ouais. Et je l'ai revu récemment, et j'étais putain, c'est un film sur le burn-out. Yes.
Ah ouais. Et moi, je l'ai vu quand j'avais 7 ans, je me rappelle pas du tout que c'était un film sur le burn-out. Bah,
c'est ton interprétation. Elle n'arrive plus à voler parce qu'elle travaille trop et qu'elle est déprimée.
Bah oui.
Ah oui. Et puis elle va dans la forêt retrouver une artiste qui lui dit juste prends le temps, repose-toi, ressource-toi, puis ça va revenir sans que tu fasses attention.
Mais c'est là où on se dit aussi que, enfin, c'est comme les contes en fait. Les contes, c'est en soi, c'est vachement glauque et pourtant c'est à destination des enfants, même si ils ont été un peu adaptés quand même.
Il y a eu un peu le même phénomène en fait quand tu vois la petite sirène de Disney et quand tu lis le conte d'Andersen, la petite
Les fibres d'acier, c'est pareil.
C'est pas la même ambiance. Mais parce qu'en fait, je pense qu'on a toute tendance à dire oh là là, c'est pour les enfants, ils vont avoir peur, etc. Alors qu'en fait, finalement, c'est aussi leur apprendre les choses de la vie sous forme de de métaphores, de dessins animés. Kiki, la petite sorcière, elle est mignonne, on s'identifie. Et après, on pourra se dire quand on travaille trop, il faut s'arrêter un moment. Voilà, c'est des leçons.
Mais je crois que les contes se modifient pas uniquement pour ne plus faire peur aux enfants, mais c'est aussi parce que nos morales évoluent. Enfin, je veux dire. C'était La Belle et la Bête. Au début, la morale, c'était si ton mari est moche, tu t'en fous, il a de la thune. Donc il faut que tu l'épouses et, au lieu de te marier par amour, parce que c'est dans un contexte où on marie les filles de force et que si elles se rebellent, c'est plutôt chiant. Donc les contes évoluent parce que maintenant, on est plus dans des messages de il faut apprendre à aimer les autres sans juger le livre par sa couverture, sur l'inclusion. Maintenant, on relie même La Belle et la Bête comme une histoire de récit de personnes trans. Enfin La bête qui voit une sorcière qui lui donne un truc qui fait qu'elle a plein de poils qui poussent et qu'elle devient horrible aux yeux du monde et que du coup elle vit dans son château renfermée et qu'elle fait trop peur alors qu'en fait c'est une bonne patte.
C'est vrai.
Donc il y a aussi des truc de réappropriation de pour actualiser quoi.
Ouais, l'interprétation aussi quoi. Et du coup, est-ce que un bon film d'animation ou un bon dessin animé, c'est pas un dessin animé qui nous parle à tous les âges?
Et bah, je sais pas, parce que il y avait ce sujet que j'ai vu passer il y a pas longtemps sur Steven Universe.
Ah oui.
Qui est une série animée. Au début, c'est une histoire. Enfin, les premiers épisodes, c'est des épisodes qui se répètent un petit peu, où il y a Steven qui est avec les Gems, les Crystal Gems, et ils ont des missions, etc. Et en fin de compte, c'est une série qui est très. Qui représente des corps très différents. Il y a des personnes racisées, il y a des personnes fines, grosses. On a des grosses de plusieurs morphologies, car oui, on ne peut être autre chose qu'une boule. On peut avoir des formes et du gras, c'est possible. Et c'est une série vachement sympa. Mais force est de constater que c'est une série pour les jeunes LGBTQI plus de 20 ans, qui ont les cheveux bleus. Et pas finalement tant pour les enfants ce qu'elle ouais, était à la base quoi. Roses, Ça matche pas quoi. Non mais du coup il y a eu quand même ce changement de cible en fait qui a fait que maintenant c'est plus trop une série réussie c'est du point accessible. De vue de la cible jeunesse en fait. Ouais. C'est, enfin je trouve que c'est toujours une super série mais que du coup la cible a changé comme My Little Pony qui a c'est été vraiment très récupérée par des fans de enfin des jeunes hommes.
Ah oui, non, mais ça, c'est. Ah oui. Moi, j'ai pas compris ce phénomène.
Bah, en fait, c'est parce que si tu regardes la structure d'un My Little Pony, c'est du roleplay donjon.
Ouais.
Et c'est en ça que ces personnes-là se sont investies à fond dans cet univers. Et finalement, bah, ça parle presque plus à ces personnes-là qu'aux enfants. Et j'ai l'impression qu'il y a une difficulté à faire coexister les deux. Ça marche dans des films comme les Ghibli, où t'as une espèce de nostalgie lancinante qui font bander les parents et de l'émerveillement pour les enfants. Mais sur ce genre de séries comme ça, j'ai l'impression que ça échoue un peu à produire des trucs de super qualité pour les jeunes en faisant plaisir aux petits militants et aux jeunes en recherche de représentation.
Une série animée de qualité qui parle à beaucoup de gens, c'est dur à trouver, c'est clair.
On peut chercher, proposer, envoyer vos lettres de candidature.
Si j'ai découvert il n'y a pas longtemps une série animée que j'ai pas continuée mais qui était prometteuse, ça s'appelle Hilda. C'était l'adaptation d'une BD. Très chou.
Ça donne grave envie de voir la BD.
Ouais, de la lire. Ouais, clairement.
Et finalement, toi, ce dont tu vas nous parler, Cécile, c'est aussi un peu le même souci. C'est des trucs qu'on dit que c'est pour les enfants, mais en fait, peut-être aussi c'est pour les adultes.
Alors, on peut se poser cette question, mais c'est pas la question que j'avais envie de vous poser sur les jeux vidéo. Parce que j'avais plutôt envie de vous demander, parce que moi aussi j'ai prévu des questions, c'est en quoi on entre différemment dans une histoire de jeux vidéo que dans l'histoire d'un livre. Parce que moi, pour vous raconter un peu ma vie, j'ai subi ce qu'on appelle la prépa. appelé Hippocane Cagne. Et en vrai, après la prépa, j'étais plus foutue de lire des livres. C'est pour ça que j'ai commencé à faire des chroniques BD. C'est parce que les pavés écrits en prose, je ne pouvais plus, je saturais, c'était mort. Et maintenant, aujourd'hui, j'en suis au stade où je trouve un livre trop lourd alors qu'une BD, je peux la poser. Alors que lire un roman, c'est compliqué jusqu'à physiquement parlant, quoi. Alors qu'un jeu vidéo, bah, pianoter un clavier ou tenir une manette, ça va, ça passe. C'était une manière pour moi de garder un lien avec une culture et une écriture. Et de continuer en fait à survivre culturellement parlant quoi. Donc je kiffe les jeux vidéo et déjà jeux vidéo historiquement c'est je le trouve très très lié au roleplay, au fait de jouer des personnages, de les incarner machin. Et enfin j'ai pas envie de vous parler de roleplay aujourd'hui mais enfin on va pas se mentir, il y a de la littérature là-dedans. Mais moi les trucs sur lesquels j'ai envie de parler un petit peu c'est comment on a parlé déjà de connivence, de créer du lien, bah justement comment on crée des liens avec des personnages de jeux vidéo. Qui n'a pas chialé quand les membres de son équipe du Normandie sont décédés à la fin de Mass Effect 1, 2 ou 3 pour celles et ceux qui y ont joué.
Moi. Parce que...
On est d'accord que quand t'as investi autant d'heures de jeu sur Mass Effect, que t'as appris à connaître les personnages, en plus t'as la possibilité de développer des relations amicales ou amoureuses avec les personnages et ton avatar, et ça crée un attachement en fait, et quand ces personnes-là... vont à la fin jusqu'à avec toi, t'es content. Quand ils meurent, bah clairement tu délaides ta sauvegarde et tu recommences pour pouvoir avoir les membres de ton équipage quoi. Alors que ce sont juste des petits amas de pixels sur un écran. Et est-ce que, enfin je sais pas si vous jouez aux jeux vidéo déjà.
Un petit peu. Mais moi, j'ai un gros passif, j'ai complètement arrêté.
Et enfin je sais pas si vous reconnaissez en cette idée de d'attachement au personnage qui est un peu différent que dans les livres en fait. Parce que dans le livre. Certes, des fois, il y a des livres que j'ai refermés en étant un peu triste, en me disant c'est le dernier tome, je ne les reverrai plus. Mais dans jeux vidéo, c'est pas tout à fait la même nature.
Bah, après, ton personnage
aussi. Oui, en fait, c'est, je pense que le jeu vidéo, il y a aussi une dimension où, bah, comme tu le joues, c'est les actions que tu as décidé qu'il fasse. Alors que bon, le livre, c'est linéaire, tu peux pas changer.
Puis t'as aussi la question peut-être du point de vue, t'es pas au-dessus en train de lire, t'es dans le jeu en train d'interagir dans l'univers et t'as un effet en fait dedans.
Et en plus,
t'es plus ou moins fort selon l'espace qu'on t'a prévu. Hein.
Tu peux souvent dans certains jeux. Moi, je jouais aux vieux jeux vidéo de PS1, PS2, vraiment Game Boy, vraiment vieux. Et dans ces trucs-là, il y a quand même beaucoup de moments où tu peux construire, en tout cas physiquement, ton personnage. Et ça fait déjà partie d'un premier truc. La première étape, c'est que tu construis le physique de ton personnage qui est plus ou moins à ton image. Moi, ça a toujours été. J'étais toujours des mecs. Donc,
souvent, parce que c'est l'option. Soit c'est la seule option, soit l'option femme, t'as moins de choix et c'est pas très topissime.
Oui, c'est plus badass tout simplement.
Oui, aussi. Bah oui, c'est pour ça que c'est pas très topissime. Enfin, je veux dire, quand tu regardes Guitar Hero, on n'est pas sur le show le plus narratif du monde, mais quand les avatars femmes, t'as le choix entre deux personnes, t'as soit une analytique pin-up, soit une meuf qui a clairement un string et un soutif et des cheveux roses. Quoi.
Ouais. Enfin... Puis tu vas à Dragon Ball Z, je suis désolée, quoi. Les filles, elles sont une pichenette, elles sont dead, donc non, quoi.
C'est ça.
Et donc je pense que ça fait partie aussi de ça, le fait de pouvoir même choisir ton personnage, alors faire un avatar qui te ressemble plus ou moins, ou alors choisir un personnage, j'en sais rien, je pensais à Mario par exemple, où tu choisis un personnage parmi plusieurs...
Choisis ton personnage préféré, quoi.
Tu choisis qui tu veux incarner, et t'incarnes beaucoup les choses dans les jeux vidéo. Plus que contrôler les choses, tu les incarnes, et comme tu disais, c'est toi qui fais tes choix, même si tout le gameplay, en fait, tout est écrit. Si jamais tu fais pas les choses comme c'est écrit, et ben en fait, tu suis pas le jeu vidéo, mais t'as cette illusion de contrôler le truc.
Mm-hmm. Et bah justement, t'as dit une formule qui m'intéresse beaucoup, à savoir faire des choix, car il y a des jeux qui ont basé tout leur système sur te laisser faire des choix. Bah moi, je pensais à Life is Strange.
Ah aussi, ouais.
Et là, en fait, l'idée, c'est que t'as une histoire qui est prévue, un univers, des personnages, et c'est à toi de choisir le chemin et d'en assumer les conséquences. D'ailleurs, à la fin de chaque chapitre de Life is Strange, t'as des pourcentages de tes potes ou dans le monde des gens qui ont fait tel ou tel choix. Comme ça, tu peux te dire « Ah, cool, j'ai fait partie des 15% qui ont choisi d'abandonner ce petit écureuil sur la route, yes, je suis peut-être une crevure !» Et donc, c'est assez intéressant comme manière, en fait, de parler de morale, en fait, plutôt que de... Enfin, j'ai l'impression que quand tu lis un livre, t'es plus facilement dans la posture du juge qui va prendre parti pour tel ou tel personnage, où vas tous les juger libre à toi. Tandis que dans le jeu, bah, on te met en position d'expérimentation, d'où comme la fameuse expérience du train, où tu dois choisir
qui tu tues.
C'est ça.
Ah ouais.
Bah là, on est en plein dedans. Et tu parlais aussi du fait qu'on peut parfois ne pas suivre ce qui est prévu par le chemin qui a été prévu par le jeu vidéo. Et il y a des jeux qui font ça, en fait, qui te permettent d'aller dans les marges ou de désobéir. Et bon, c'est pas tout à fait ça, mais il y a ce jeu qui est, je pense, vous allez peut-être pas connaître parce qu'il est un peu indé, c'est Undertale, qui est sorti en 2015 et qui est écrit par Toby Fox. Et Undertale, quand tu joues la première fois, tu vois des gens qui t'attaquent, donc tu les tues. Puis quand on arrive à la fin, on te dit hey, tu te rappelles que t'as tué machin, bidule, truc et machin. Et en fait, il t'explique que l'XP que tu as pris, c'est, je sais plus quelle est la formule en anglais, mais en gros, XP devient des initiales de meurtre à gogo. Mmh. Donc, on te fait comprendre qu'il y a une vraie réflexion sur la violence dans ce jeu, puis on t'invite d'ailleurs à recommencer le jeu en ne tuant personne. L'une des questions qu'on peut aussi se poser, c'est à quel point, en fait, l'immersion peut être voulue ou pas par le jeu, parce que c'est une question qu'on peut se poser légitimement. Il y a des jeux qui sont pas narratifs pour dessous, mais pour certaines personnes, eux, ils ont investi tellement de choses dans le jeu. Enfin, par exemple, quand vous jouez à FIFA, a priori, la narrativité, c'est pas oufissime. Mais si vous êtes avec votre pote, avec qui vous avez poncé le jeu pendant 1000 fois, que vous avez vos équipes, vos chouchous, vous leur avez donné des noms, vous les avez traînés, etc. Bah là, il y a quand même quelque chose du relatif et d'immersif qui va se jouer en fait dans l'histoire de la partie en fait.
En quelque sorte, c'est une forme de narration, c'est une narration extérieure au jeu, puisque c'est une narration que tu fais entre toi et ton pote, mais c'est une narration quand même.
Et avant de clôturer cette chronique, maintenant j'aurais voulu parler de ceux qui écrivent, qui font le jeu, parce que du coup, le joueur, lecteur, on l'a vu. Mais parlons du programmeur, artiste, écrivain.
Scénariste.
On l'a vite fait évoquer avec Undertale, du coup, avec cette proposition où tuer les ennemis, c'est vraiment un code de jeu vidéo qu'on prend pour acquis. Et là, l'idée était de le remettre en question pour vraiment poser une question sur l'utilité de la violence et c'était trop bien. Mais il y a d'autres jeux qui proposent comme ça des écritures de gameplay. Et récemment, il y a eu ce petit jeu indépendant d'un studio barcelonais, Nomad Studio, qui a sorti le jeu Grille. Donc c'est un jeu vidéo muet. C'est très 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 beau, hein, oui, pour les gens qui aiment les beaux visuels avec des belles couleurs et des effets un petit peu graffiti, très aquarelle. C'est magnifique ce jeu vidéo. Et en gros, c'est un jeu de plateforme. Vous devez ramasser des petites étoiles. Ça, c'est d'une part. Et de l'autre, c'est un conte sur ni plus ni moins que la dépression, le deuil, comment passer par les différentes phases de la tristesse. Et vous expliquer en quoi ça le fait spoilera peut-être votre expérience de jeu, dont je vais m'abstenir. Mais vraiment, le fait de passer de ces plateformes à ces plateformes pour ramasser des putains de petites étoiles, ça vous fait chialer. Donc c'est quand même pas mal en termes d'expérience narrative.
C'est vrai.
Et enfin, oui, je pouvais aussi parler d'un dernier truc qui est Unnormal Lost Phone, et qui a été complété ensuite par Unover Lost Phone du studio Accidental Queens. Donc les reines accidentelles qui se sont appelées comme ça parce qu'en fait le jeu a commencé à une game jam. Donc pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, la game jam, c'est une manière, c'est un peu comme un hackathon créatif en fait, où des gens se retrouvent, s'enferment dans une pièce avec du café pendant 48 heures, avec des gens qui connaissent ou connaissent pas, et ils font un jeu. Et du coup là, elles étaient trois, et elles ont fait un jeu où le concept est que vous trouvez un téléphone perdu, ça se joue sur téléphone, donc en termes d'immersion, on est pas mal, puisqu'on a une immersion, enfin, on a une interface de téléphone sur le nôtre, et donc on trouve un téléphone perdu, et on doit trouver les mots de passe, et pour voir les différentes applis, pour découvrir l'histoire de la personne, ce qui a permis du coup à ces aux créatrices de ces jeux vidéo d'offrir de vraies expériences de vie en fait, puisque le premier opus parle d'une personne LGBT, et de comment elle s'approprie son identité, fait ou pas son coming out, évolue là-dedans, etc. Et le second parle pour le coup de violence conjugale. Et ça vous met vraiment à la place de ces personnes concernées, et pour le coup, enfin, je trouve que c'est une très belle manière de faire partager une réalité en fait.
Ouais, c'est clairement une bonne manière de raconter des histoires en fait.
Peu importe la forme.
Ouais. Bah, en plus, je dis ça, mais en parlant, Normal Osphone, du coup, comme il prend la place d'un téléphone, on se retrouve à lire beaucoup de mails, de SMS, etc. Et il y a une forme qui naît en ce moment sur Internet, je sors complètement du jeu vidéo, mais c'est cette frange de la fanfiction qui fait des social media alternative universe. Le principe est donc de faire... Moi, j'ai surtout vu ça sur Twitter. C'est des threads de personnes qui font des captures de réseaux sociaux en faisant comme si c'était Harry Potter et Draco Malfoy qui avaient leur réseau Twitter et qui interagissent.
Ah oui, oui, ça fait longtemps que ça existe.
Ça fait longtemps que ça existe, mais je viens de découvrir les vacances dernières, s'il vous plaît. Et donc, il y a de tout. Il y a du très nul, il y a du très pensif, il y a du très répétitif, mais il y a des gens qui se cassent le cul à faire des trucs sympas. Je vous recommande notamment les threads de Ovid Son Sac, qui s'emmerdent à faire des fausses couvertures de magazines, des fausses émissions, journal, etc., qui pousse à fond le truc, et c'est vachement chouette. Enfin, je veux dire, on reconnaît l'écriture des personnages. Genre, quand il y a des majuscules, on se dit, ça, c'est Hermione qui fait sa pablèche. Là, c'est tout écrit, il y a plein des mèmes partout, ça doit être Pansy. C'est trop bien.
En fait, on peut raconter des histoires avec tout et n'importe quoi.
Mais avec tout et n'importe quoi. Même il y a des comptes Instagram, là, qui parlent des échanges de SMS, style amour solitaire, des échanges de SMS. Et ça raconte une histoire, ça raconte l'histoire de personnes qui se parlent, et... On est tout le temps dans les histoires, les gars. Enfin, il y a toujours...
Tout est fiction.
Tout
est fiction.
Ouais, oui, je pense qu'on peut... C'est un bon mot de fin, ça.
Ouais.
Donc,
on va vous laisser retourner à votre fiction individuelle.
Vous voyez, fiction, auto-fiction.
Auto-fiction. Surtout, ce qu'on peut en dire, c'est que vous n'êtes pas obligé de lire des livres pour profiter de fiction. Donc, si les gens viennent vous chercher là-dessus, vous leur passez notre émission.
Écoutez vos copains aussi, parce que malgré tout, ils racontent des bonnes histoires des fois.
Voilà. Valorisez-les, aidez-les à roder leurs histoires, ou montrez-leur comment on utilise les applications pour produire des belles fictions par SMS interposées. Ça peut être chouette. Hein.
Et n'oubliez pas, vous pouvez nous retrouver sur notre page Facebook.
J'irai cracher sur vos ondes.
Ouais, et des fois, on vous met des liens et tout. C'est sympa.
Puis même, on a un Twitter, J-C-S... Putain, non. J-I-C-S-V-O.
Yes,
ouais,
voilà, vous avez toutes les infos là. À la semaine prochaine.
Salut.